France Inter, le 6-9 de l'été, Laetitia Gaillet.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Laetitia Gaillet.
On va sortir ce matin avec le Jardin des Plantes, et vous nous le dites là ce matin. Le Jardin des Plantes, moi je ne savais pas, c'est l'un des plus anciens jardins de Paris.
Oui, c'est peut-être déjà une occasion de visiter le Jardin de Paris en ce mois de juillet. Ils sont beaucoup plus accessibles. Bien, l'histoire du Jardin des Plantes commence véritablement en 1626, quand Guy de la Brosse sollicite Louis XIII sur la nécessité d'offrir aux Parisiens un espace dédié à la botanique. Alors notre homme, Guy de la Brosse, prend sa plume et il écrit une très longue lettre. Et voici juste un très court extrait de cette fameuse longue lettre. « Je propose à votre majesté la construction d'un jardin pour cultiver les plantes médicinales, où votre peuple ait recours en ses infirmités, où les disciples de la médecine puissent apprendre, et où ceux qui la professent s'adressent à leurs besoins. » Et il poursuit. Écoutez bien, parce que j'aurais aimé qu'aujourd'hui encore, ceux qui ont en charge la médecine s'inspirent de la demande. « Ces considérables intérêts du riche et du pauvre, et de la santé à chacun plaisante et nécessaire, demandent très humblement à votre majesté l'édifice de ce jardin, où à toute heure et occasion l'on puisse trouver des plantes légitimes, selon ce que pourront fournir les saisons, le médecin, le chirurgien et l'apothicaire le vous demandent encore, car les plantes en sont en la médecine, ce que la pierre, le mortier et le bois sont en l'architecture. » C'est beau, hein?
Ah oui, c'est beau, et en même temps, on peut se demander qui est ce Guy de la Brosse, il écrit si bien.
C'est un homme extraordinaire, c'est un botaniste, c'est le premier médecin du monarque et le tout premier surintendant de ce qui est alors appelé le Jardin du Roi. C'est donc à lui que l'on doit la création de ce lieu inauguré en 1640.
Alors, le Jardin du Roi qui va changer de nom pendant la Révolution.
Pour devenir le Jardin des Plantes, un endroit magnifique où il est possible de visiter les serres... où il est toujours possible de visiter les serres uniques plantées de végétaux rares, contempler des squelettes de baleines, des squelettes de baleines.
Facile ce matin.
Oui, non, mais.
On se demande ce que vous avez fait hier.
Non, c'est vous, c'est l'émotion. Ah, c'est l'émotion.
Je comprends, en même temps.
On a du cœur. S'amuser devant les animaux bien vivants du parc animalier et méditer sous les vieux arbres comme le cèdre du Liban, un splendide conifère rapporté d'Angleterre en 1734, c'est pas rien, par le célèbre botaniste Bernard de Jussieu.
Alors ce jardin, c'est aussi un endroit parfait pour y être enterré.
Oui, parce que ce que j'ai envie quand je vous parle d'un jardin, c'est pas de reprendre ce que l'on trouve un peu partout sur les sites, c'est vraiment de vous donner envie d'y aller et de vous apprendre des choses que l'on ne sait que trop peu. Saviez-vous par exemple que deux hommes, comment dire, qu'il y a plusieurs personnes qui reposent en ce lieu, en totalité, mais aussi en partie?
Ah oui.
Eh oui, alors.
Ils ont été guillotinés?
Eh ben, vous allez comprendre, ça mérite quelques explications. Deux hommes déjà reposent dans le Jardin des Plantes. Le premier, Guy de la Brosse, son fondateur. Il est dans le son corps est dans le vestibule de la nouvelle galerie de zoologie. Et Louis d'Aubenton, le premier directeur de cet endroit, lui a été enterré à l'extérieur dans le labyrinthe. Buffon, l'un des plus grands naturalistes de tous les temps, est en partie présent sur les sites. Vous allez comprendre pourquoi. Son cervelet a été déposé dans le socle d'une statue le représentant. Quand vous vous promenez au Jardin des Plantes de Paris, vous regardez la statue de Buffon, il y a un socle, dans le socle, il y a le cervelet. Je trouve pas ça terrible, mais c'est la réalité. Et puis également, là, je vais peut-être vous l'apprendre, que c'est dans ce Jardin des Plantes, au pied d'un saule pleureur, que furent dispersées les cendres des victimes de Landru, après qu'elles aient été examinées par un professeur d'anatomie comparée du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais pour éviter que l'endroit ne devienne source à des manifestations douteuses, l'endroit a toujours été gardé secret. Mais effectivement, l'homme qui a examiné le contenu la gazinière, bah après il fallait bien se libérer des restes d'ossements. On a donc été les mettre discrètement dans le Jardin des Plantes. Aujourd'hui encore, les victimes du redoutable Landru reposent pour l'éternité en plein cœur de Paris.
Alors Alain Baraton, ce que vous dites en même temps, c'est que c'est pas le premier jardin, et vous en êtes le témoin, on ne dit pas où tous sont les arbres, il y a des secrets dans les jardins, parce qu'à Versailles, il me semblait qu'il y avait un vieil arbre, on ne disait pas où il était.
Oui, pour éviter le piétinement, et puis parce que les beautés végétales, j'estime, ça se mérite. Tout comme également, il y a un arbre aujourd'hui, à Versailles, qui est planté au-dessus de l'intégralité, ou presque, des archives de Charlie Hebdo suite aux attentats. Eh bien, nous avions décidé avec Patrick Peloux d'enterrer sous un arbre des exemplaires de Charlie Hebdo, pour que dans 100, 200 ou 300 ans, nos descendants découvrent ce qu'était la presse dite libre de notre époque. Personne ne connaît l'emplacement exact, bien entendu, excepté Patrick Peloux et moi.
Ah là, c'est génial. Alors, merci pour ces précisions, Alain. On va passer aux questions des auditeurs. Nadine explique qu'en traitant ses rosiers avec du purin d'ortie et de prêle, je me suis aperçue que ce purin avait un effet positif sur les buis atteints par la pyrale du buis. En 4 semaines, les buis ont retrouvé leur feuillage de façon spectaculaire. Elle a donc la solution, Nadine.
Attendez, il y a 2 sortes de purin d'ortie. Le purin d'ortie que l'on achète dans le commerce et le purin d'ortie qu'on a fait soi-même. Le purin d'ortie, quand on le fait soi-même et qu'on l'oublie dans le garage, je peux vous assurer que quand on a ouvert le couvercle, on se dépêche d'évacuer les lieux tellement c'est puanteur. C'est quelque chose de terrible. Je pense que si le nez, qui est votre nez à vous, ô combien délicat, ne supporte pas l'odeur du purin d'ortie quand il a trop fermenté, je pense qu'il en est de même des pyrales et que l'odeur est telle, eh bien, qu'elles doivent également fuir le lieu. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Qu'il y ait des pyrales ou que l'endroit soit infréquentable tant les odeurs sont épouvantables? Non, je ne crois pas que les odeurs fassent fuir les pyrales. Elles vont peut-être les disperser le temps d'une aspersion, mais elles reviendront. Le purin d'ortie n'a pas vocation, malheureusement, et je dis bien malheureusement, à éloigner la pyrale. Donc la chenille qui fait autant de dégâts dans les buis.
Alors, en même temps, cette chenille, ça veut dire qu'elle résiste au bout d'un moment à tous les traitements?
Jusqu'à présent, elle a résisté à pratiquement tout. On a comme traitement principal ce que l'on appelle le Bacillus thuringiensis. C'est un petit peu savant, j'en conviens. C'est un bacille qui va manger les bestioles de l'intérieur. On dit que le traitement est bio. Peut-être que le traitement est bio. Mais il n'y a pas que des pyrales. Vous avez envie, vous, plus tard, de présenter à vos enfants un monde sans papillons. Donc arrêtons sous prétexte que les produits sont bio d'en mettre n'importe comment. Il y a aujourd'hui un gros problème au niveau des buis. Je parlais hier des buis de Volvicomte qui ont disparu. Ils seront replantés le jour où on aura trouvé peut-être une espèce plus résistante. Arrêtons de détruire la nature pour quelques buis. Voyons s'il n'y a pas moyen de trouver en attendant une alternative.
Cathy a cette question. Des bœufs très gentils broutent dans un champ où j'ai planté des arbres il y a 2 ans. Ils se sont régalés des extrémités des pousses et un sol à triste mine. Que dois-je faire pour qu'ils repoussent bien?
Les bœufs sont toujours très gentils. Il n'y a pas plus beau que le regard d'une vache quand elle vous regarde. Moi, je suis amoureux des vaches. J'ai même honte aujourd'hui quand je mange un beefsteak. Je m'excuse maintenant auprès de l'animal. Alors que faire quand on a planté des arbres? Eh bien, les tenir à distance, il n'y a pas de secret. Parce que soit l'animal va brouter, je ne sais pas si on peut parler de brouter, quand il mange des feuilles en altitude, toujours est-il que les dégâts peuvent être importants, mais surtout, la vache adore se frotter le dos, voyez-vous. Sauf que quand vous avez 400 ou 500 kilos de viande qui viennent se frotter sur une écorce, les dégâts peuvent être considérables. J'ai vu, de mes yeux vus, des jeunes arbres ployés sous le poids d'une vache. Donc la seule méthode pour préserver des arbres dans un champ planté par de gentils bœufs est de tenir les bestiaux à distance.
C'est tout simple. Valérie, on m'a offert une rose en décembre et un bourgeon s'est développé depuis. J'ai gardé la rose fanée avec un fond d'eau, car une partie des feuilles est restée verte. Depuis une semaine, une racine est apparue, puis-je la replanter?
J'aime beaucoup le ton que vous avez employé pour lire cette missive passionnante qui explique qu'il est peut-être possible, involontairement, de fabriquer des boutures, car le rosier se bouture très facilement. Et je pense qu'on a affaire à une bouture spontanée. Alors que faire? Si vous prenez maintenant la bouture, vous la déplantez, enfin vous la mettez dans la terre, les petites racines blanches très fragiles vont certainement se casser. Mettez du terreau dans le vase ou dans le verre, du vrai terreau, vous le mettez comme on met du sucre, vous le saupoudrez et vous continuez de maintenir le vase plein d'eau. Et vous faites ainsi jusqu'à ce que le vase soit entièrement rempli de terreau. J'espère que vous me suivez. Et là, peut-être que les racines continueront de se développer. Lorsqu'elles se seront suffisamment développées et qu'il y aura plus de terre que d'eau, éventuellement, en gardant la plante pendant 1 an à l'extérieur, mais dans le récipient, vous obtiendrez peut-être un rosier à planter dans le jardin l'année suivante. C'est possible, mais c'est pas gagné.